Pour le message de ce matin, je vous propose de lire encore dans le chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous arrivons presque à la fin de ce chapitre. Et ce matin, nous allons lire les versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. C'est un passage où l'apôtre Paul compare deux types de vie. Celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu et celle des croyants. Et en même temps, il clarifie pour nous d'une manière très pratique ce qui signifie marcher de manière digne du Seigneur. Vous savez, souvent, on dit aux prédicateurs, prêchez-nous des choses pratiques. Et je pense que ce matin, il s'agit d'un message pratique parce que le texte de l'apôtre Paul concerne des choses très pratiques de notre vie chrétienne. Alors, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, nous lisons ceci, je lis dans la traduction dite du semeur. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. » À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Après l'appel au service, à l'édification de l'Église et à la maturité des chrétiens, pour que ceux-ci vivent et grandissent dans l'unité, l'amour et la vérité, nous l'avons vu dimanche dernier, l'apôtre Paul maintenant va exhorter les chrétiens à cultiver la pureté et la sainteté de leur vie chrétienne. Car la vie de l'Église et donc des chrétiens, de chacun de nous, doit être caractérisé non seulement par l'unité, l'amour et la vérité, mais aussi par la pureté, par la sainteté, pour utiliser un mot biblique. Et pour nous faire comprendre cela, l'apôtre Paul compare donc deux styles de vie radicalement différents l'un de l'autre. Le style de vie païen, comme dit notre traduction de ce matin, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre lequel ils nous mettent en garde, et le style de vie du chrétien, fruit de sa conversion au Seigneur, fruit de sa relation intime avec le Seigneur. Et il est clair, quand on lit ce passage, que ces deux styles de vie, ces deux manières de vivre, s'opposent radicalement l'une à l'autre. C'est comme la nuit et le jour. Et ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici, c'est que le fait d'être devenu chrétien n'a plus rien à voir avec notre ancienne manière de vivre. Le fait d'être devenu chrétien implique nécessairement une rupture avec sa vie passée, une rupture nette et claire avec sa vie passée sans Dieu. Et le fait d'être devenu chrétien implique un mode de vie différent de celui des non-chrétiens. Notre nouvelle nature exige donc un nouveau style de vie, un nouvel comportement, une nouvelle conduite digne de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Ce que nous sommes en Christ détermine donc notre comportement dans ce monde. C'est d'ailleurs en rappelant cet appel que nous avons reçu du Seigneur que l'apôtre Paul introduit ce chapitre 4 de cette lettre. Il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ça veut dire qu'il y a une manière digne de vivre la vie chrétienne et il y a une manière indigne de vivre la vie chrétienne. Une manière digne, c'est-à-dire une manière qui dignifie le nom du Seigneur, qui dignifie Dieu, qui l'honore, qui le glorifie, et une manière de vivre qui ne glorifie pas du tout le Seigneur, une manière indigne d'être chrétien. Or, pour nous expliquer tout cela, l'apôtre Paul commence d'abord par dresser le portrait du païen. Il commence par résumer les caractéristiques essentielles de la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est jamais trop de relire, et je vais relire. « Vous ne devez plus vivre comme les païens, dit-il, qui suivent leurs pensées vides de sens, ou selon une autre traduction, selon la vanité de leur intelligence. Ils ont en effet l'intelligence, ou la pensée, obscurcie, et ils sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, dit l'apôtre Paul, ils se sont livrés à l'inconduite, ou selon une autre traduction, au dérèglement, pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices, dans toutes sortes d'impudicités jointes à la cupidité, pour citer une autre traduction. Alors vous conviendrez avec moi que le langage qu'il utilise est un langage fort, n'est-ce pas ? Difficile à entendre. Même si celui qu'il utilise dans un autre passage parallèle, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, à partir du verset 18, vous pouvez lire à la maison, l'est encore davantage. Peut-être que ces paroles peuvent heurter et choquer ceux qui ne sont pas chrétiens et qui se disent, mais il a du culot, cet homme-là, cet apôtre Paul. Je ne suis pas chrétien et je ne vis pas de cette manière-là, de cette manière dissolue. Je ne vis pas dans la débauche, comme il le prétend ici dans ce passage. Oui, peut-être. Peut-être que tous les chrétiens ne vivent pas dans la débauche. Peut-être que tous les chrétiens n'ont pas nécessairement une vie aussi dissolue que celle qui est mentionnée ici. Il y a beaucoup de choses, surtout dans nos sociétés et dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui ont été influencées par le message de l'Évangile. Et même si on ne le sait pas, il y a beaucoup de gens, beaucoup de non-chrétiens qui vivent avec certains principes du christianisme, peut-être sans le savoir, parce que l'Évangile a heureusement fortement influencé notre culture. Ceci dit, une chose est sûre, et la Bible est claire là-dessus, elle dit que tous les êtres humains souffrent au moins d'un problème majeur, l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, la perte de sens moral. Tous les êtres humains souffrent au moins d'une sorte d'ignorance spirituelle par rapport aux choses de Dieu. C'est un problème, je dirais, qui concerne tout le monde. D'autre part, il faut savoir que l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens issus du paganisme. Des chrétiens issus du paganisme qui savaient ce que c'était que réellement le paganisme. Ils le savaient par expérience. Ils savaient par expérience de quoi l'apôtre Paul parlait. Car ils sortaient du paganisme et ils vivaient toujours dans un environnement païen, hautement païen. Au moment où l'apôtre Paul écrit cette lettre, au moment où il fait cette description terrible de la manière de vivre du païen, du paganisme, il y avait à Éphèse le fameux temple d'Artémis, n'est-ce pas ? Ou la Diane des Éphésiens, pour les latins, dont le temple était l'une des sept merveilles du monde antique. Le culte dans ce temple était d'une grossièreté légendaire, n'est-ce pas ? Artémis ou Diane, déesse de l'amour. Les adorateurs se livraient à toutes sortes d'orgies sexuelles, les hommes comme les femmes, dans toutes sortes de relations inappropriées. Cette déesse était servie par une pléthore de prêtres, de prêtresses, d'eunuques, de vierges, de danseurs, de musiciens, etc. J'ai lu même qu'une enceinte d'un périmètre de 400 mètres permettait aux brigands d'avoir la vie sauve s'ils n'en sortaient pas. Alors on peut facilement imaginer l'ambiance, n'est-ce pas? L'ambiance non seulement dans ce temple, l'ambiance de ce culte, de ces sacrifices, mais l'ambiance aussi de la ville en général autour de ce temple. Et si vous voulez savoir comment les gens ont réagi à la prédication de l'Évangile par l'apôtre Paul, vous pouvez lire encore un deuxième texte à la maison, Actes chapitre 19, et vous allez voir comment les gens ont réagi à la prédication de l'Évangile. Or, les chrétiens vivaient dans cette ville. Ils vivaient dans cette ville, autour de ces choses. Et même ceux qui vivaient aux alentours, n'est-ce pas, ils vivaient dans un tel environnement païen. Et sans doute qu'il fallait être fort, spirituellement fort, n'est-ce pas, pour vivre dans un tel contexte. Partout où ils allaient, ils devaient rencontrer sans doute leurs anciens partenaires d'idolâtrie et de débauche, eux qui étaient devenus chrétiens. Et ça, ce n'était pas facile, sans doute. Partout où il y avait des commerces liés à ce temple, et les chrétiens vivaient autour de ce commerce-là, des idoles, et cette idolâtrie, n'est-ce pas? Paul leur dit, c'est fini, vous ne devez plus vivre comme autrefois. Vous ne devez plus vivre comme des païens. Au milieu de cette mer de saleté, vous devez vivre dans la sainteté et la pureté. En tant que chrétien, vous êtes appelé à être différent, à vivre à contre-courant au milieu de cette société. Je ne suis pas dessinateur, mais j'avais pensé faire un dessin ou trouver une image qui montre un petit peu comment doit être la vie du chrétien dans la société. Et j'avais pensé, puisque le poisson est le symbole des chrétiens, n'est-ce pas, j'avais pensé à un dessin où on voit toute une série de poissons aller vers une direction et un petit poisson aller dans le sens contraire. Beaucoup de poissons qui vont dans une certaine direction et ils ne savent même pas qu'il y a le filet du bateau des pêcheurs qui se trouve à quelques centaines de mètres. Le petit poisson, c'est le chrétien qui va à contresens. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans ce passage. Mais que dit Paul exactement de la conduite des païens? Ça vaut la peine peut-être de l'analyser un petit peu, voir la description qu'il fait d'eux. Il énumère donc plusieurs caractéristiques que nous pouvons citer. Il dit que ces gens-là marchent selon la vanité de leur intelligence. Leurs pensées donc sont vaines, sont vides de sens, sont absurdes. Et c'est sur leurs pensées qu'ils font de leur vie. Vous imaginez, c'est sur ces pensées-là humaines, vaines, qu'ils font de leur vie. Cela veut dire qu'ils vivent dans l'irréalité la plus complète. Leurs raisonnements sont sans direction, sans fondement solide. Ils suivent l'opinion, ils suivent le courant sans savoir où celui-là les mène. En fait, ils marchent, comme disait Jésus, sur le chemin large qui mène à la perdition. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Telle voie paraît droite en homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul ajoute que leur conscience est obscurcie. Leur conscience est obscurcie et endurcie, car elle n'est pas éclairée par la parole de Dieu, par les valeurs divines. Leur vision et leur compréhension du monde manque donc de lumière, de clarté, de perspective. Dans un autre texte, l'apôtre Paul explique cela dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Voilà pourquoi ils vivent comme ils vivent, souvent dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impureté, dans le dérèglement. L'apôtre Paul dit aussi qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de communion avec le Dieu vivant et vrai. Ils peuvent connaître des choses sur Dieu qu'ils ont entendues par-ci et par-là. Ils peuvent même croire que Dieu existe. Jacques, dans son épître, dit que même les démons croient, n'est-ce pas, et ils tremblent. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas de manière personnelle et vivante. Ils ne sont pas passés par ce que Jésus appelle la régénération, la nouvelle naissance, la conversion. Ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas la vérité de l'Évangile. Leur cœur vit dans l'obscurité et souvent en rébellion même contre Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils marchent dans la vie en étant fondés donc sur leurs pensées, sur eux-mêmes, sur leur raisonnement, sur leurs pensées, sur leur jugement, sur leur intelligence humaine, sur leur esprit. Ils vivent sans règles permanentes de vie, car finalement ils n'ont pas de boussole morale autre que leur pensée, que leur ignorance morale et intellectuelle de Dieu. Leur autorité ultime, ce sont leurs pensées, leur opinion et rien d'autre. Et souvent, ils vivent pour eux seuls. Ils font leur propre loi au détriment des autres. Ils trouvent leur valeur et leur sécurité où ? Dans les plaisirs de ce monde, dans des plaisirs souvent égoïstes. L'apôtre Paul parle de l'impureté et l'immoralité. Dans les possessions égoïstes, le texte parle de cupidité, t'as pas du gain. Voilà ce qui fait la vanité de l'intelligence humaine, la pensée obscurcie, l'ignorance de Dieu. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là, dans cette description qu'il fait du paganisme. Il ajoute encore trois mots grecs à ce portrait terrible. Le mot grec porosis, traduit dans certaines versions par endurcissement du cœur, ça vient de poros qui désignait une pierre plus dure que le marbre. Le mot azelgeia, traduit par inconduite, dérèglement, c'est la disponibilité pour toutes sortes de plaisirs sans limite aucune. Et le troisième mot, c'est pléonexie, traduit par cupidité. C'est l'avidité arrogante, le désir de posséder, même ce qui est interdit. Même si pour cela il faut mentir, il faut voler, il faut écraser les autres, il faut violer. Celui qui est atteint par la pléonexie ne se préoccupe pas des méthodes à utiliser pour arriver à ses fins. Ils ont donc le cœur dur, dit l'apôtre Paul. Ils sont têtus, ils sont insensibles aux choses divines. Et c'est probablement cela qui entraîne tout le reste, n'est-ce pas ? Dans une sorte de spirale du mal, l'endurcissement du cœur entraîne l'obscurcissement de l'intelligence et de la pensée, c'est-à-dire l'ignorance. Ce qui a comme conséquence le rejet de la vérité révélée de Dieu, qui a comme conséquence une vie dissolue, de débauche, et impur, où la seule chose qui compte, c'est finalement de satisfaire ses désirs, quels qu'ils soient, coûte que coûte, et sans vergogne aucune. Est-ce que ce portrait est loin de ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés ? Peut-être pas. Dans le monde actuel, on continue à voir les conséquences, n'est-ce pas, de cette intelligence humaine sans Dieu. Dans les agissements des hommes et souvent même dans les décisions qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour les autres, surtout quand ils gouvernent nos nations, n'est-ce pas ? On le voit dans les agissements et décisions qu'ils prennent dans nos parlements, par exemple, n'est-ce pas ? Lorsqu'ils ont été achetés par tel et tel groupe pour faire passer une loi, coûte que coûte, n'est-ce pas ? La liste, sans doute, serait longue si on voulait faire un catalogue des actes et décisions prises par les hommes à partir de ce qu'ils pensent être bon pour les autres. Et ça, dans tous les domaines, au nom de la science, de la liberté, du bienfait de l'humanité, on voit que le monde vit dans la confusion totale, la plus totale, car il est bâti par des hommes et des femmes qui vivent finalement selon la vanité de l'intelligence, selon la vanité de leurs pensées, sans se soucier de connaître vraiment la volonté de Dieu pour la vie ici-bas. On peut penser au désordre, un peu partout, les injustices, les guerres, toutes sortes d'abominations qui conduisent l'humanité au bord du gouffre, n'est-ce pas? C'est le monde bâti dans la méconnaissance de Dieu, dans l'absence de la crainte de Dieu. Le monde bâti sans Dieu, le monde qui va inévitablement subir la colère divine. Du temps de l'apôtre Paul, ces choses se pratiquaient par des vies dissolues, comme il écrit dans ce texte. Mais ce qui se passait au temps de l'apôtre Paul, nous le voyons encore aujourd'hui, la pratique de ces choses est devenue, je dirais, le mode de vie de beaucoup de nos contemporains. Il suffit de voir, par exemple, comment on traite, ou comment on maltraite plutôt, le mariage. Là, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que le mariage. Comment on maltraite la famille. Comment on envisage, comment on respecte la vie sous toutes ses formes. Et même la vie à ses débuts. Et on pourrait continuer, n'est-ce pas? On pourrait prolonger la liste. Tant et tant de domaines qui sont tournés en dérision par les gens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu. La méconnaissance de Dieu. Quelqu'un disait, si Dieu n'existe pas, tout est possible. Si Dieu n'existe pas, tout est possible. Après avoir présenté ce tableau terrible du paganisme et d'avoir mis l'accent surtout sur l'endurcissement, l'obscurcissement et la vie dissolue des sans-Dieu, l'apôtre Paul va ensuite parler de la vie chrétienne. Et là, on arrive à quelque chose de plus joyeux, n'est-ce pas? La vie chrétienne et des caractéristiques de la nature nouvelle que nous avons reçues en tant que chrétiens. Et là, je relis à nouveau à partir du verset 20. « Mais vous, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Dans le texte original, l'apôtre Paul utilise trois verbes qui évoquent l'école. Bon, je vais vous épargner les mots grecs. C'est apprendre, entendre et être instruit. Apprendre, entendre et être instruit. En tant que chrétiens, nous avons été et nous sommes toujours à l'école du Christ, n'est-ce pas? Nous sommes toujours à l'école du Christ. Nous avons appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu sa voix par sa parole, par les enseignants, par les prédicateurs de l'Évangile, par les évangélistes, etc. Nous avons entendu sa voix. Et nous nous sommes laissés instruire par lui. Et nous nous laissons encore, je l'espère en tout cas, nous les chrétiens, instruire par lui conformément à la vérité qui est en Jésus. Cela veut dire que le chrétien, et l'apôtre Paul ici parle de quelque chose qui s'est passé avant, n'est-ce pas? Le chrétien, au moment de sa conversion à Jésus-Christ, son sauveur, devient donc disciple du Christ. Devient disciple du Christ. Jésus-Christ devient son Seigneur, son Maître, son modèle de vie et de conduite. Ce qui fait que, par l'enseignement reçu, l'enseignement qui fait appel donc à des normes de vie différentes de celles du monde et à des valeurs différentes de celles du monde, le chrétien adopte un style de vie voulu par le Seigneur et donc différent de celui du monde. Et ce style de vie différent est la conséquence donc de cet enseignement reçu. C'est un style de vie, une manière de vivre qui manifeste le caractère de notre Sauveur, Seigneur et Maître Jésus-Christ. Au moment de notre conversion, nous avons découvert en Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité dont l'apôtre Paul nous parle de ce texte nous a franchis finalement de l'esclavage du péché et de la conduite selon le train de ce monde. Par notre conversion au Seigneur, nous sommes entrés dans ce que la Bible appelle une nouvelle création qu'il a instaurée, n'est-ce pas, et dans la nouvelle vie qui en est une conséquence. L'apôtre Paul parle de cela, par exemple, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, donc notre vie ancienne est passée, tout est devenu nouveau. » C'est cela qui caractérise la vie chrétienne, ce changement intérieur initié au moment de notre conversion au Seigneur, au moment où nous sommes tournés vers Dieu. Depuis notre conversion, nous avons reçu une nouvelle vie, une nouvelle identité. Nous nous sommes placés sous un autre maître, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous ne devons plus marcher comme les non-chrétiens. Il y a dans ce passage la métaphore du vêtement qui est très instructive, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que le chrétien est celui qui a revêtu une nature nouvelle après s'être dépouillé de sa vieille nature héritée d'Adam. Il a revêtu le vêtement blanc de la justice du Christ. Il s'est dépouillé de son vêtement de péché et d'injustice qui l'empêchait de s'approcher de Dieu. Le chrétien, par sa régénération par le Saint-Esprit, est devenu une nouvelle créature, créée, dit l'apôtre Paul, conforme à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité, c'est-à-dire une vie qui a comme exigence la justice, la sainteté et la vérité. Dieu lui-même l'a revêtu de ce vêtement nouveau, n'est-ce pas? Par grâce et sans rien attendre en retour, comme dans la parabole du fils prodigue, où le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. » Nous sommes donc, nous les chrétiens, des nouvelles créatures, appelées à la sainteté et à la pureté. C'est impossible donc de vivre comme les païens. Le fait de vivre chrétien implique ce changement radical dont la parole de Dieu nous parle. C'est une récréation, une nouvelle vie, une conversion. Et à ce nouvel état, à cette situation nouvelle, correspond donc un nouveau style de vie, une nouvelle conduite qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est intéressant de voir ce que Paul dit sur ce changement qui se produit dans nos vies. On voit ici un triple mouvement, un renoncement, un renouvellement, un revêtement, un renoncement des mauvaises manières de vivre, de penser, de se conduire dans ce monde, un renoncement à tout ce qui déplaît à Dieu, qui nous empêche de vivre en communion avec lui, et un renouvellement de l'intelligence, commencer à la conversion, qui change notre manière de voir la vie, nos critères de vie, qui change les circonstances, n'est-ce pas? Notre manière de voir les circonstances selon la volonté de Dieu. Et un revêtement d'une nouvelle manière de penser et de se conduire qui plaît à Dieu et qui manifeste donc la justice et la sainteté divine. On voit par ce texte que la sanctification, la pureté de nos vies se développe de l'intérieur, n'est-ce pas, par l'action de Dieu en nous, vers l'extérieur. Le changement intérieur mène donc ce changement extérieur à des actions extérieures tant envers Dieu qu'envers le prochain, parce que les deux choses sont liées. Nous pouvons donc dire que le contraste est clair entre le non-chrétien et le chrétien, entre celui qui a la lumière de l'Évangile, qui connaît Dieu, et celui qui ne l'a pas et qui ne connaît pas Dieu. Les chrétiens connaissent le Christ, ils connaissent la vérité, ils marchent dans la vérité. Ils connaissent le Christ, ils connaissent la lumière. Il marche dans la lumière. Voilà pourquoi il mène une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Vivre en chrétien consiste donc à marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ, c'est-à-dire à vivre de manière distincte du monde profane, à chercher, à cultiver constamment la pureté et la sainteté de nos vies. Alors que le Seigneur nous aide à expérimenter, je dirais même jusque dans les plus petits détails, n'est-ce pas, de notre vie, la réalité de cette nature qu'il nous a donnée au moment de notre conversion, cette nouvelle nature dont il nous a revêtus, pour utiliser le mot de l'apôtre Paul ici, puissions-nous tendre toujours, toujours plus vers cet idéal que la parole de Dieu nous présente, car telle est notre raison d'être dans ce monde. Et sachant que nous pouvons compter sur l'aide de Dieu, sur l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, car la parole de Dieu dit ceci, « Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Et il ajoute ceci, « C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur, qui nous illumine, qui illumine nos vies et qui nous exhorte, Seigneur, à vivre de manière authentiquement chrétienne, selon tes critères, selon la nature que tu nous as donnée. Et nous voulons en ce moment, Seigneur, prier non seulement pour nous-mêmes, pour notre vie nouvelle que nous vivons avec toi ici dans une société qui souvent ne te connaît pas, qui t'ignore, mais nous voulons aussi, Seigneur, prier pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent selon leurs propres pensées, selon l'opinion. Nous te prions, Seigneur, d'éclairer aussi leur cœur. Nous te prions de faire en sorte que ta lumière, peut-être par notre témoignage, par notre présence auprès de ces personnes, que ces personnes puissent aussi voir ta lumière et changer de voie. Et nous te prions, Seigneur, pour notre monde et pour ceux qui nous dirigent, afin qu'ils, Seigneur, ils puissent avoir aussi la crainte de ton nom, qu'ils puissent diriger le monde non pas selon leur pensée, mais selon ta pensée. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde et pour tout ce qui se passe dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.